Les étals regorgent de fruits.
Écoute, papé, les prunes, les pêches, et même les abricots, il arrive qu'une année sur deux, on les donne aux cochons tellement il y en a.
C'est le printemps, c'est le temps des cerises.
Il y a la couleur, il y a le goût, il y a tout, puis les tartes, c'est bon.
On n'enlève pas les noyaux de cerises pour faire le clafoutis.
Moi, c'est comme la tablette de chocolat. Si je tombe dedans, ce soir, il n'y en a plus.
Ça va, la cueillette ?
Cette semaine, Peggy récolte les noirs de Méchède, une variété de bigarreau.
Bien sucré et de bonne taille, c'est parfait.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour le 14e et dernier grand format dont on va déguster avant la grille d'été de France Inter. Et nous finissons en beauté, amis auditeurs, un dimanche 21 juin, premier jour de l'été. L'été, une saison bénie pour tous les fructivores. On vous propose une première partie 100% fruits. Existe-t-il des années à fruits comme il existe de bons millésimes dans le vin? Pourquoi les fruits sont-ils si difficiles à cultiver sans traitement chimique? Autant de questions que l'on va se poser avec notre expert aujourd'hui, c'est Stéphane Lagorce, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ancien cuisinier, ingénieur agronome, professeur de sciences de l'aliment à AgroParisTech et vous signez un livre que j'ai à mes côtés, Le Grand Précis des fruits à éplucher et leurs recettes sans pépins. C'est un livre pour tout comprendre sur le monde ô combien sucré et végétal des fruits et séchés. Homo habilis, la maison d'édition que vous avez vous-même fondée.
Oui, c'est exact.
On n'est jamais mieux servi que par soi-même.
Ah, voilà.
Il y a un fruit en particulier qu'on va croquer ensemble, cher Stéphane Lagorce, tout cru et tout cuit aussi, parce qu'on se rend compte qu'il marche très bien cuit. Et vous allez nous le prouver, c'est la cerise. Je crois même que vous nous avez apporté le clafoutis parfait.
Ah, parfait. En tout cas, il le vise, mais je pense qu'on aura un débat là-dessus. Hein.
Noyau, sans noyau.
Épais, pas épais. Manger tout de suite, avec attente. Enfin, on a dans, toutes les couleurs de...
Dans quel plat et quel matériau de plat.
Oui,
enfin,
oui.
Voilà, il y a énormément de débats en France. Vive la France pour ça, et notamment sur le clafoutis qui cristallise beaucoup de passion. Il y a même mes chroniqueurs du jour pour le goûter. Elvira Masson et notre chroniqueur vin, Jérôme Gagnès, en chair et en os. Bonjour à tous les deux.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Jérôme Gagnès qui a retrouvé le chemin du studio 521 et ça nous fait du bien.
Je suis particulièrement content.
Je sais pas si c'est une bonne idée de vous accueillir en fait. Et votre clafoutis, ça se passe comment à la maison? Faites-nous partager vos recettes ainsi que toutes vos questions sur les fruits au 01 45 24 7000. Bianca et Théo qui ont été sur le pont 14 dimanches de suite pour On va déguster XXL. Attendent vos appels. Le 21 juin est aussi, cela ne vous aura pas échappé, la fête de la musique. France Inter se met au diapason avec des concerts tout au long de la journée et On va déguster ouvre grand ses oreilles avec l'un des experts musique de France Inter, c'est Mathieu Conquet qu'on retrouvera tout à l'heure dans la deuxième partie d'émission entre platine et petit plat. Mathieu est notamment allé rendre visite à Philippe Catherine qui sera en concert ce soir à 21h sur France Inter. On vous promet une interview musicale, culinaire et légèrement déjantée. Et puis des voix amies de France Inter viendront mettre leur grain de sel dans ce dernier grand format dont on va déguster. Vincent Josse et sa lecture gourmande, Laurent Delmas et sa séance de cinéma comestible. Toutes les recettes de cette émission, les infos pratiques, les podcasts sont à retrouver sur franceinter.fr, à la page On va déguster.
France Inter, On va déguster avec François-Régis Gaudry.
Ce fut la tradition dans ce grand format dont on va déguster chaque semaine depuis le dimanche 22 mars. On vous a alerté sur des initiatives ou des projets solidaires dans le milieu de l'alimentation et de la restauration. Encore une bonne idée à nous signaler en ce dimanche, Elvira.
J'ai rencontré un duo formidable cette semaine. Elles s'appellent Stéphanie Antoine et Laure du Tertre. Pendant le confinement, elles ont en quelque sorte emprunté une cuisine d'un restaurant fermé dans le 3e arrondissement à Paris. Et sous le nom de Bistrot Poireau, un bistrot qui n'existait pas donc et qu'elles ont imaginé, elles ont cuisiné 800 repas pour des associations qui viennent en aide aux plus précaires. Le SAMU Social et l'association Aurore. Aujourd'hui, elle livre des repas à Paris pour vous et moi sur commande. Alors c'est un délice de cuisine végétarienne,
en
pleine
plus.
De goût et de caractère. Elles font une gougère atomique, un sablé à l'ail, plein de petits trucs à partir de légumes super bien condimentés. Et elles continuent de préparer tous les matins des repas pour les plus fragiles, pour les sans-abri, via le SAMU Social. Parce qu'évidemment, l'aide se raréfie maintenant que la vie a repris un cours un peu plus normal. Donc elles sont en train de mettre en place le principe du repas suspendu. Alors vous connaissez la tradition napolitaine peut-être
vous
du café sospeso.
à Naples, non, hein, Café Sospeso. Ouais.
Café Sospeso, c'est le café suspendu. Le principe, c'est qu'on paye son café au comptoir et on en paye un autre d'avance qui profitera à celui qui en aura besoin. Mmh. Alors, elles imaginent, les filles, le même principe avec des repas qui seraient mis à disposition de lieux qui seraient d'accord pour travailler avec elles en partenariat. Café, bistrot, restaurant, mais ça pourrait être autre chose, une boutique. Alors, on pense à l'association La Cloche qui lutte partout en France contre l'exclusion des sans-abri en référençant les établissements où l'on peut prendre un café gratuitement, utiliser les toilettes, par exemple. Ça pourrait être une piste intéressante avec un sticker repas suspendu sur la vitrine pour informer la personne qui en a besoin qu'une boîte repas est à disposition pour elle. Voilà, elles sont formidables. Elles livrent tout Paris à vélo. Si vous voulez soutenir cette boucle ultra vertueuse, sachez que 10% de chaque commande que vous pourriez faire sert à pérenniser cette action solidaire.
Et ces repas suspendus.
Voilà.
C'est, une très belle idée.
C'est chouette.
Hein. Bistrot Poirot.
Bistrot Poirot. Elles ont un compte Instagram, bistrot-du-bas Poirot, comme un poireau, sur lequel vous trouvez le formulaire de commande de repas, qui est également sur la page Repas Dégustés.
C'est une initiative parisienne, mais qui risque de faire des émules en région.
Complètement. Cuisine itinérante, solidaire. Ouais.
Bravo, bravo. Bistrot Poirot, toutes les informations sur franceinter.fr à la page On va déguster. Cette émission a été préparée à distance par Nadia Chougui et Romy Engels. Elle est réalisée en direct derrière la vitre de la régie par Laurent Thomas, avec à la technique Julien Dumont et Alix Barrois. Un réveil en douceur avec In Loving Memory de Gabriels, ce groupe mystérieux de Los Angeles. Belle journée en goût et en musique sur France Inter. Your magnolia scent still lingers there. They say I should wish you well. Truth is, I really don't care.
Do up, do up.
Memories of you are my nightmares, and my dreams you're standing there. Still I try to wish you well, but I can't feel what is. Confetti falling, born of man, broken hearted.
Drop, drop. Drop, drop.
Le Gagnez. Fraises, cerises et bientôt abricots, pêche, prune, melon, pastèque, la grande saison des fruits d'été a démarré sur nos étals. Et pour mettre la main dans la corbeille de fruits, pour mieux comprendre aussi ce monde, on va le voir, sucré, mais aussi étrange et mystérieux, nous avons à nos côtés Stéphane Lagorce, qui a signé le grand précis des fruits à éplucher et leurs recettes sans pépins aux éditions Homo Habilis. J'ai adoré votre livre. Avec des fiches techniques, beaucoup de connaissances scientifiques sur tous les fruits que vous évoquez, et en même temps, un ton ludique et convivial, on pourrait dire que c'est un livre de gai savoir. Ça vous va ?
Oui, ça va très bien. En fait, on peut apprendre des choses et en même temps le faire avec bonne humeur et puis et même en souriant. C'est pas interdit. Et effectivement, il y a un certain nombre de choses techniques dans le livre, mais il y a aussi beaucoup de bon sens et qui passe encore mieux avec un peu de sourire.
Et des recettes, évidemment.
Oui, des travaux pratiques, j'ai appelé ça, moi.
Voilà. Alors, un exemple, justement, des contenus assez iconoclastes que vous mettez en place dans ce livre. Le monde des fruits est une jungle immense, dense, on a tendance en général à s'y perdre. Alors, évidemment, il y a la science qui vient à notre secours, notamment pour tous les noms latins et non scientifiques. Mais vous dressez une typologie singulière des fruits qui ne repose pas sur les familles botaniques des fruits, mais plutôt sur d'autres connaissances scientifiques, mais également sur l'usage que l'on peut en faire en cuisine. Vous l'intitulez tout simplement La galaxie des fruits. Vous allez nous raconter ça, c'est passionnant.
En fait, il y a des classements. Soit il y a les classements taxonomiques, comme on dit, en fait, avec toutes les familles, sous-espèces, sous-tribus, enfin, c'est tout à fait, il faut une licence de latin et ça n'aide pas pour faire la salade de fruits. Après, il y a les classements par morphologie botanique, ça n'aide pas pour faire la salade de fruits ni le clafoutis. Et après, moi, je propose cette approche, finalement, de bon sens, hein, qui est de voir dans tel fruit, on a des briques de base, le sucre, l'eau, l'amidon, la cellulose, enfin, les fibres. Et chaque fruit a son mix spécifique de ces différentes briques.
Son équilibre de ces différentes briques.
Voilà, et donc du coup ça donne, il y a des fruits qui épaississent, d'autres des fruits qui parfument, des fruits qui rafraîchissent, des fruits qui texturent, des fruits qui colorent. Et donc en fait on les a classés tout simplement par leur usage culinaire.
Alors la première planète de cette galaxie des fruits, c'est Pectini.
Oui, alors voilà, donc en fait on a compris, ça contient de la pectine, donc qui est une fibre soluble toute simple en fait, qui a le pouvoir de gélifier. Donc on s'en sert pour les confitures et les gelées, mais on peut en faire beaucoup d'autres choses avec ça, en fait.
Et puis regardez, schéma à l'appui, et dans Pectini, évidemment, on classe les agrumes, le coin, l'abricot, la fraise, la prune. Voilà, donc des fruits riches en pectine pour les confitures, les gelées, les marmelades, comme vous le dites.
Et plus, il y a affinité. C'est-à-dire qu'on peut aussi faire des gelées pour les terrines, on peut faire des chauds-froids. Enfin, on peut faire vraiment, une fois qu'on a compris la fonction, c'est très facile de s'en échapper et puis d'imaginer. Le livre est autour de cette idée-là, c'est donner, en fait, des clés, et puis après, les recettes sont secondaires, presque.
Lipidia.
Ça, c'est les fruits très riches en lipides. En fait, on n'y pense pas, mais il y en a. Le durian, les amandes, la noix de coco. Donc, tous ces fruits riches en lipides, qui sont d'ailleurs bons pour la santé, sont des pièges à arômes et qui permettent donnent beaucoup de possibilités culinaires. Alors donc, il faut utiliser ça avec intelligence, mais en fait, il y a d'autres possibilités, cette possibilité auxquelles on ne pense pas qu'on a mis en lumière là.
Des laits, des coulis, des pulpes. On va passer un peu plus rapidement, mais on va comprendre, parce que ce qui est intéressant, c'est que vous nommez effectivement ces planètes, c'est une nomenclature que vous avez décidé vous-même, mais Aquae, on se doute que ce sont des fruits riches en eau.
Voilà, très riches en eau, donc cela, on va, voilà, la cerise, la pêche, le brugnon, enfin, toutes ces drupes, comme on dit.
Et puis aussi, attention, un fruit qui intéresse beaucoup, Jérôme Gagnès.
Oui, alors le raisin, alors dans la seule transformation raisonnable est bien entendu le vin, mais ça Jérôme nous le dira. Et donc, ces fruits-là qui sont riches en eau, si on les concentre, en fait, ils vont avoir encore plus de goût. Donc là aussi, ça ouvre d'autres portes culinaires.
Amidonia.
Ah, alors cela, on y pense encore moins. Peut-être c'est la châtaigne, par exemple, à parler que d'elle, qui est très riche en amidon et qui permet donc d'être consommée pour ce qu'elle est, mais aussi d'aller, par exemple, écraser à la fourchette et mis dans un sauté, dans un ringoût, dans un bourguignon. Ça donne une texture absolument extraordinaire. On pense pas à ces choses-là. En fait, on le propose là parce que justement, c'est une des fonctions toutes simples de ce fruit.
La planète Amidonia vit également la banane, chère à Philippe Catherine, qu'on retrouvera en deuxième partie d'émission.
Laissez-moi manger ma banane. Et voilà. Et là aussi, pareil, plein d'utilisations culinaires possibles, autrement que la sempiternelle banane en papillote, qui est fort bonne d'ailleurs, mais on peut faire autre chose.
Et dernière planète, Cellulosus.
Alors, celle-là, ce sont les fruits... à nouveau, qui eux sont riches en fibres. Alors par exemple, parlons peut-être du cassis, par exemple. Et en fait, du cassis écrasé à la fourchette, mis dans un bœuf bourguignon, ça va amener une texture, une couleur, une saveur tout à fait particulière. Il ne faut pas faire ça sur toute la recette, hein. Les possibilités sont vraiment très 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 larges et très amusantes. En fait, c'est un jeu. Hein. C'est un jeu de Lego. On s'amuse à bouger les pièces et on explore.
Stéphane Lagorce, parmi vos nombreux diplômes, il y a celui d'ingénieur agronome. On veut donc la différence entre un fruit et un légume. Cette différence n'est-elle pas plus culinaire que botanique finalement.
Oui, c'est ça. En fait, on est, c'est vraiment des usages culinaires qui ont conduit à ces deux familles-là. On pourrait dire qu'en fait, là où ils se retrouvent un peu, c'est que les fruits comme les légumes concentrent le meilleur de ce que la plante a pu donner. En fait, la plante, en fait, elle va chercher dans l'énergie solaire, elle fait de la photosynthèse dans le sol, par mycorhization, tout ce qu'on voudra, tous les nutriments qui vont permettre de garder la graine. Et autour de la graine, le végétal fait, mais tous les composants qu'on a dit tout à l'heure pour que la graine puisse transmettre son patrimoine. Et en fait, nous, on en profite et des fois, on banalise un peu les fruits. Or, c'est des petites concentrées d'énergie tout à fait incroyables et qui sont délicieux. C'est tout à fait passionnant.
Vous dites que le fruit est une mini-usine, en fait, qui fabrique des pigments, des nutriments, du sucre, de l'amidon, des vitamines.
C'est ça, exactement. Pour tout ça, dans le but de préserver la graine, parce que c'est son objectif ultime, on va dire. Mais nous, on se l'approprie et justement, on va se servir de ces différentes familles de composants, tout simple, pour faire des recettes délicieuses.
Donc même s'il y a des fruits qui servent de légumes et inversement d'ailleurs, on peut quand même dire que botaniquement un fruit est le résultat ou le descendant d'une fleur.
Oui, voilà, c'est ça. Donc en fait, la fleur, c'est le sexe du végétal. Le fruit, c'est la descendance et donc la plante, en fait, y consacre absolument toute son énergie. Et nous, dès qu'on mange un fruit, en fait, on profite de ça.
Très bien.
C'est pas si banal, en fait.
Beaucoup de questions, notamment sur la qualité des fruits.
Ah.
On dit souvent, notamment dans les familles ou quand on a des discussions à table, les fruits n'ont plus le goût d'avant. Alors est-ce qu'il faut mettre ça, est-ce qu'il faut mettre ce constat sur le compte de forcément c'était mieux avant avec le rôle de notre mémoire qui bonifie les souvenirs, ou est-ce qu'on assiste à une dégradation générale de la qualité de nos fruits de décennie en décennie, peut-être pour des raisons d'intensification agricole?
Oui, alors évidemment la massification de la production ne va pas toujours dans le bon sens, on va dire quoi. Donc, mais bon, après tout le monde a droit de manger des fruits. Il y a d'autres types de production plus limitées qui proposent d'autres types de qualité de fruits. Donc, il faut être curieux. Et puis, effectivement, des fois, quand on coûte des produits commercialisés dans des AMAP ou dans des réseaux, plus restreints, en massification, les saveurs sont quand même nettement plus intéressantes quoi. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que les fruits sont souvent jugés en termes de qualité par leur aspect. Ce qui est très dommage. Et il y a beaucoup de fruits qui sont sélectionnés par trioptique, c'est-à-dire qu'on met les fruits sur des tapis et ils sont éliminés par des caméras, vous savez, qui regardent s'il y a un défaut, un trou, enfin tout ce qu'on voudra. Alors qu'en fait, non, il y a des fruits magnifiques. Vous avez un petit verger qui sont juste pas forcément très bien réguliers, mais qui sont délicieux. Et le problème, c'est qu'on veut que ce soit beau. Or, la beauté est peut-être plus cachée que ça. Et ça, c'est effectivement, je pense que ça va vraiment pas dans le bon sens d'une qualité de saveur, de sucré qu'on compare, hélas. Ouais.
Donc vous êtes en train de dire que par notre système productiviste agricole, le critère gustatif est passé au second plan par rapport à la dimension esthétique, où il y a aussi la résistance au transport, évidemment, qui explique que le fruit a pu s'affadir. C'est qu'on veut des fruits qui résistent effectivement au transport, qui durent plusieurs jours. Je pense spontanément à la fraise espagnole, qui a en apparence toutes les qualités d'une belle fraise, sa couleur bien rouge, sa résistance effectivement, sa dureté. Et puis quand on croque dedans, il se passe plus grand-chose.
Ah oui, on est presque sur la courgette, hein, puisqu'on parlait des légumes là. Donc
c'est le gramme plat du goût.
Pour le coup. Alors évidemment, c'est-à-dire que en fait, c'est des injonctions contradictoires. Il y a toute une chaîne de production qui veut des fruits marchands, c'est-à-dire qu'ils soient beaux et qu'ils soient fermes. Et derrière, nous, il y a des consommateurs qui voudraient avoir des fruits sucrés et savoureux. Donc il y a quelque chose il faut s'orienter vers d'autres types de production qui proposent des alternatives. Hein, ça existe. Hein, il faut être un petit peu.
Elvira Masson.
Il y a aussi le nombre d'intermédiaires des fruits en grande distribution qui assurent un passage en chambre froide 2, 3, 4 fois. Des fruits qui sont dont on se fournit en vente directe auront a priori comme un peu plus de goût que
toujours
les
pareil.
Fruits qui ont transité parmi l'intermédiaire.
Toujours pareil, c'est vraiment toujours pareil. Et je pense aussi, il faut se contraindre aussi à accepter de ne manger des cerises que pendant 5-6 semaines, des fraises pendant 3 ou 4, et ne pas vouloir en fait élargir la plage hein, qui correspond pas finalement au cycle naturel, on peut dire, des fruits.
Est-ce que les circuits courts, dont on a beaucoup dit qu'ils étaient une solution, une nouvelle solution pour s'alimenter et pour consommer, dont on a beaucoup parlé d'ailleurs dans ces 14 éditions dont va déguster XXL, est-ce que c'est justement une solution pour renouer avec des fruits à juste maturité, cueillis dans de bonnes conditions, à proximité de chez soi, et du coup forcément la qualité serait au rendez-vous dans la corbeille de nos fruits ?
Alors là, il y a tout ce que vous venez de dire, et il y a aussi une approche, j'allais dire, quasi vigneronne de ces arboriculteurs qui vont situer leurs arbres fruitiers sur des parcelles.
Travail
parcellaire, enherbement maîtrisé, sélection des porte-greffes rustiques, enfin un ensemble de choses qui demandent beaucoup de temps, même financièrement, qui sont impactantes, mais qui vous amènent derrière à des productions fruitières. Je vous dis, moi, qui me font passer à des fruits signés, de même qu'on a des vins signés, où on a de la spécificité géologique, on a de la spécificité variétale, et c'est tout un monde qu'on a presque des fois un petit peu oublié. Il faut vraiment goûter ça pour s'en rendre compte. Hein.
Nous allons avoir bientôt au téléphone une arboricultrice passionnante. C'est vous qui nous avez mis sur sa voie. Elle est dans le Loiret, elle s'appelle Peggy Lizard. Et elle cultive des fruits de manière absolument remarquable. Mais juste en préambule, il y a énormément de réactions de nos auditeurs sur ce sujet. C'est évidemment le débat le bio versus l'agriculture conventionnelle. Les productions de fruits à pépins ou à noyaux sont réputées pour être très gourmandes en produits phytosanitaires. On a souvent évoqué le problème de la pomme qui subissait jusqu'à 35 traitements chimiques, fongicides, herbicides, pesticides, régulateurs de croissance, depuis sa culture jusqu'à sa commercialisation. Est-il vrai qu'on a raison spontanément de se méfier des fruits et des traitements qu'on leur inflige dans notre système agricole ?
Alors, c'est une vaste question. Enfin, comment dirais-je? En tout cas, ça questionne, hein. Effectivement, qu'on soit obligé de traiter un fruit 36 fois pour qu'il soit marchand, parce que finalement, c'est ça dont on parle, ça questionne un petit peu sur nos propres attentes, quoi. Donc, à nouveau, je reviens un petit peu sur cette question-là. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir, si on parle des pommes, hein, pour parler d'elles, par exemple, est-ce qu'on a vraiment envie et besoin d'avoir des pommes au galbe parfait, avec des reflets, voilà, qu'on voit jamais dans un verger, d'ailleurs? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Est-ce que c'est vraiment ça dont on a envie? Moi, j'ai le sentiment que non. Je pense que c'est aussi des...
Vive les fruits moches ?
Ouais, vive les fruits moches. De même qu'on a fait des fruits moches. Enfin, il y a d'ailleurs, mais
et
ils
les
sont moches. Mais...
On en a beaucoup parlé.
Voilà, c'est la beauté cachée, hein, mais elle est bien là, quoi. Donc, vraiment, ça questionne beaucoup sur nos attentes et comment peut-être on s'est un petit peu laissé circonvenir dans un certain type d'attente. Hein. Il y a des gens qui sont tout à fait ravis de manger des... Quand on fait goûter aux gens des fruits d'AMAP qui sont pas beaux et qui sont super bons, ils le remarquent tout de suite. Hein.
Est-ce que l'agriculture bio nous protège justement de tous ces, résidus de pesticides?
C'est une alternative quand même tout à fait différente quand même, parce que là on n'est plus dans les traitements systémiques, hein, on fait des traitements voilà de surface. Et ce qui est intéressant, c'est que les arboriculteurs qui sont dans ce schéma-là, en fait ils ont une autre approche. C'est pas seulement le fait de pas traiter, c'est qu'en fait ils sont très souvent dans une approche, comme je vous disais, parcellaire, de qualitatif, de moindre massification, et tout ça, ce sont des éléments congruents, comme on dit, c'est-à-dire qu'en fait qui convergent vers la même niveau de qualité supérieur de sucre et surtout de parfum, quoi, parce qu'on parle souvent du sucre des fruits, mais c'est le parfum. Il faut goûter des fraises que vous faites pousser dans le jardin, comparez-les.
Et si le fruit est si fragile, si vulnérable, c'est qu'il est finalement à la merci de tous les ravageurs, de tous les prédateurs, de toutes les maladies.
Et voilà, comme le végétal met tous les nutriments possibles pour donner le maximum d'énergie pour la graine, forcément, ben, ça attire toute la prédation du champignon jusqu'aux insectes, donc c'est compliqué.
Et nous, êtres humains, nous sommes bien les premiers prédateurs des fruits.
Ah oui, mais nous, on les mange pour leur bien.
On leur fait pas de mal, évidemment.
Ah non, vous savez bien.
On les caresse.
Voilà.
Nous accueillons Peggy Izard dans cette émission. Bonjour.
Oui, bonjour.
On dit que vous êtes la femme qui parle à l'oreille des arbres.
Oui, enfin, j'essaie de les comprendre, en tout cas. Voilà, et de les observer et de voir comment ils réagissent.
Vous êtes arboricultrice bio à la ferme Le Verger Fleuri à Saint-Hilaire-Saint-Mémin. On est dans le Loiret, non loin d'Orléans. Stéphane Lagorce est venu vous rendre une petite visite il y a quelques semaines, c'est bien ça ?
Oui, c'était un bon moment.
Vous cultivez des cerises, des pêches, des prunes, des pommes, des poires, déjà en un mot. Et c'est ça qui est admirable, c'est que vous êtes une femme en reconversion. Vous faisiez un tout autre métier avant, dans une toute autre région, et vous vous êtes tournée vers les arbres et l'arboriculture en 2013. Pourquoi avoir fait le choix de vivre quasiment l'essentiel de votre temps dans un verger ?
Eh bien, c'est une période où il fallait redonner du sens à une vie qui n'en avait plus. Voilà, tant au niveau professionnel que privé, et la nature s'est imposée à moi, et le rythme des saisons à travers le rythme des arbres a été ce qui m'a construit.
Et alors, quand vous parlez de nature, Dieu sait à quel point c'est une nature préservée, la vôtre, celle de votre verger. Pour avoir juste une idée, combien d'hectares et combien d'arbres ou de pieds?
Alors, on a 8 hectares et demi plantés. Alors, les densités de vergers sont différentes, hein, suivant les variétés, les espèces. En cerisier, on a 2 hectares avec 200 arbres hectares. Et ensuite, on monte jusqu'à 1500 arbres hectares pour les pommiers.
C'est ça.
De manière plus intensive.
On disait avec Stéphane Lagorce, et vous allez surtout nous raconter comment vous travaillez, la culture des fruits et de la cerise en particulier, on est en pleine saison et c'est un fruit qu'on met évidemment à l'honneur dans cette émission aujourd'hui, que cette arboriculture est un sacré challenge quand on veut se passer de tout l'attirail chimique qui est à la disposition de l'agriculture conventionnelle. Alors, comment fait-on pour préserver de la biodiversité et pour produire des fruits les plus naturels possibles ?
Alors, en parlant de la cerise particulièrement, c'est effectivement très compliqué. C'est un challenge. Ça fait 3 ans moi, que les vergers sont passés en agriculture biologique en cerise. Et tous les ans, c'est une recherche. C'est une amélioration progressive de nos techniques pour y arriver. Ce n'est jamais gagné. On est toujours très fragile par rapport au temps, par rapport aux agressions des ravageurs, mais on essaye de mettre tout un tas de solutions en place pour qu'on soit le moins impacté et qu'on puisse avoir de beaux fruits et de bons fruits.
Parce que la cerise est effectivement un fruit particulièrement sensible, notamment très sensible à la pluie, mais également un ravageur qui justement fait des dégâts dans de nombreux vergers, c'est la mouche épidrosophile, j'ai bien prononcé ?
Oui, voilà. Donc la mouche de la cerise est le premier fléau qu'on a dans le verger, qui arrive très très tôt sur les maturités de cerise. Donc on met en place plusieurs stratégies
de lutte,
de piégeage. En fait, on fait du piégeage massif. Donc des vergers avec plein de petits panneaux jaunes englués qui attirent cette mouche.
Vous voulez parler des papiers tue-mouche ou des papiers anti-mites qu'on pourrait mettre dans notre cuisine et qui, par phéromone, je crois, attirent les insectes qui viennent se scotcher contre ces panneaux, c'est ça ?
C'est ça, tout à fait.
Incroyable. Donc il faut y mettre. Vous y êtes allé
Oui, je suis allé. C'est très amusant à voir parce qu'en fait vous avez le magnifique verger avec ses arbres, puis vous avez comme des sapins de Noël avec les pièges tout jaunes, là, jaune vif, qui attire les insectes et qui s'y trouvent piégés. Et là à côté, les cerises sont magnifiques, quoi.
Donc c'est une solution qui marche.
Oui, ça marche. Après, c'est une mise en place qui est très lourde. C'est des besoins de main d'œuvre plus importants. C'est des coûts de production donc plus élevés aussi, mais ça marche, ça fonctionne tout à fait. Ouais.
Il y a également une autre stratégie qui est le kaolin. Alors le kaolin, je crois que c'est une matière minérale qui sert notamment à la fabrication de la porcelaine, c'est bien ça ?
C'est une argile blanche très fine. Et vraiment,
en quoi elle vous aide dans la culture des cerises ?
Alors on la met en pulvérisation,
oui.
Donc à haute teneur concentrée dans l'eau. Qu'on pulvérise sur les arbres et en fait elle couvre la cerise d'une pellicule blanche c'est une barrière mécanique qui empêche la mouche de pondre dans la cerise. Et la mouche est aussi désorientée puisqu'elle ne retrouve pas le fruit rouge qu'elle cherche, donc elle est désorientée et elle est empêchée de pondre et on a une très très bonne efficacité.
Est-ce que ça veut dire que les nombreux clients qui adorent vos fruits et qui viennent vous rendre visite, car on précise que vous faites tous les marchés à Orléans, on vous retrouve le mercredi après-midi place de la République, le vendredi après-midi place du Martroi à Orléans et on a mis toutes les infos pratiques sur la page internet dont on va déguster, ça veut dire que ces clients retrouvent leurs cerises poudrées de, on va pas dire de talc, mais poudrées de blanc?
Oui, alors dans un premier temps, les premières semaines, nous les avons rincées, ce qui est une très très lourde opération. Et ensuite, on a décidé d'en discuter et d'informer nos clients sur cette technique. Donc effectivement, on vend des cerises qui ont des petites taches blanches, ce qui crée des fois un recul de la part des clients qui de loin croient qu'elles sont abîmées. Mais voilà, après, une fois que le contact direct est établi avec le client, on peut leur expliquer notre démarche, on peut leur expliquer ce qu'on fait. Et ça, c'est très, très important pour
nous. Très bien.
Voilà.
On va vous reprendre tout à l'heure. Ah oui, effectivement, vous êtes en train de me montrer sur votre smartphone, Stéphane Lagorce, ce que ça donnait, puisque vous avez la chance d'aller vous frotter à ces fruits directement. Ah ouais, il y a bien, ces petites taches blanches, mais qui font pas peur en fait. Hein. On a carrément envie de la croquer. En un mot, Stéphane.
En un mot, en fait, Peggy nous explique en fait toute la peine qu'elle se donne et que se donnent ces arboriculteurs hein, pour vraiment arriver à faire ça. Il faut vraiment que le consommateur se rende compte des efforts consentis. C'est vraiment incroyable.
Peggy, en plus, il paraît que vous êtes très à l'aise dans la cuisine des cerises. On vous retrouvera tout à l'heure parce qu'il y a un débat qui s'est enclenché sur le plateau dont on va déguster, sur le clafoutis. Le faut-il dur, mousseux, avec ou sans noyau. On se retrouve tout à l'heure. Merci beaucoup. On a des petits problèmes de connexion, mais bon, tout va bien. Il aime les fruits, surtout quand c'est du raisin et que celui-ci est fermenté. Tapis rouge pour Jérôme Gagnaise.
On va déguster sur France Inter.
Est-ce que c'est l'intervention de Peggy Lizard qui fait que je retrouve de la cerise dans le verre que vous nous avez servi?
Que de façon tout à fait exceptionnelle, j'ai préparé une chronique. Et donc, je vous promets de pas recommencer, hein, mais pour la dernière, je me suis dit que ce serait bienvenu de bosser un peu. Ouais. Donc j'ai réfléchi. Donc ça m'a coûté beaucoup, vous imaginez bien. Ça a été d'ailleurs une débauche d'énergie. Non, je voulais commencer cette chronique en faisant un bon mot d'une qualité rare et d'une drôlerie absolue qui consistait à faire un petit jeu de mots sur le cépage qui va nous occuper quelques instants en disant que ce pinot ne vient pas de Nice. C'est extraordinairement drôle.
Sortez.
Non,
rentrez chez vous.
Non, mais je vois bien que vous êtes absolument mort de rire, donc je trouve ça formidable.
Moi, je suis client,
Et Elvira aussi, d'ailleurs.
Mais Elvira, par
discrétion.
Stéphane Lagorce est affligé, en revanche.
Je rigole discrètement.
Est-ce que tout le monde a goûté ce vin sur le plateau?
Ah, c'est délicieux. Oui.
Bon, on parle d'un vin. En fait, quand vous m'avez parlé de cerise, du thème de la deuxième heure, m'est venu tout de suite à l'esprit un qualificatif que j'utilise pour certains vins qui présentent les caractéristiques suivantes, c'est-à-dire une acidité qu'on ressent un petit peu, des tanins qui sont, on dit parfois quand on a le petit doigt en l'air, la bouche en cul de poule et une petite grappe sur le revers de la veste, les tanins poudrés. Bon, mais c'est pas complètement faux parce que on a cette sensation d'un tanin qui est un tout petit peu saillant, mais qui vient comme ça agacer un tout petit peu le palais, mais de façon très fine. Et puis un côté assez salivant. Et souvent, je note dans mes notes de dégustation juteux. Quand il y a marqué juteux dans une note de dégustation, en général, c'est assez bon signe, c'est que j'ai aimé et que j'ai aimé ce type particulier. Et c'est vrai que je retrouve ça presque toujours dans un cépage qu'on appelle donc le Pinot d'Aunis, D'AUNIS, Pinot PINEAU.
Même si on peut le retrouver, moi je trouve que le côté juteux, on le retrouve aussi dans le Gamay, si je peux me permettre.
Bien sûr, on le retrouve tout à fait dans le Gamay. J'ai récemment fait des dégustations de Gamay de la Loire volcanique, qui était passionnante d'ailleurs, avec un niveau de rouge qui était vraiment très bon. C'est une très belle association, la volcanique, on aura l'occasion d'en reparler. Et j'ai trouvé beaucoup de vins qui étaient juteux. Là, on parle d'un cépage qui est un cépage qu'on trouve beaucoup dans la Sarthe et puis aussi en Anjou. C'est un cépage qui donne un vin avec une couleur très claire, on le voit dans notre verre, hein, c'est un 2018. On pourrait presque le qualifier d'un rosé foncé, d'un clairet quasiment.
Ouais, presque une infusion de raisin.
C'est exactement. Et c'est un cépage qui, par hasard aussi, développe des arômes de cerise qui sont souvent assez marqués. Et là, c'est vrai que quand on met le nez dans le verre, on a vraiment l'impression d'avoir le nez sur le noyau, l'amande de la cerise. On est dans le registre plutôt de la cerise Montmorency que de la Burla ou de la Bigarro. Et on le retrouve effectivement en bouche à travers ce côté très juteux. Et donc, c'est ça, en fait, qui m'a conduit à choisir ce vin. Alors, ce vin, c'est la cuvée Garance, en appellation Coteau du Loir, du domaine Les Maisons Rouges, dans le millésime 2018. Alors, je vais me faire engueuler parce qu'il est plus cher que 15 euros. Il est à 17 euros.
Ah !
C'est amplement justifié par une viticulture de haut niveau qui est en fait une véritable... C'est un jardin. Les vignes sont un jardin. Et c'est une viticulture vraiment très, encore une fois, très méticuleuse. Et tout est fait pour avoir le plus joli fruit. Quand je dis joli, c'est pas rond et brillant comme Stéphane le disait tout à l'heure, mais joli dans le sens qualitatif, le plus beau fruit possible pour faire ce vin. Le domaine, donc les Maisons Rouges, c'est Elisabeth et Benoît Jardin qui se reconvertissent dans la viticulture.
Non, ils s'appellent vraiment Jardin ?
Oui.
Ah oui.
Exactement. Et donc, pour le coup, là, le produit colle à l'étiquette. Hein, c'est qu'il y a l'étiquette colle au produit, il n'y a pas de problème. C'est du jardin dans tous les sens du terme. Et c'est une reconversion. En 1994, ils reprennent un demi-hectare de vignes. C'est tout petit, des très vieilles vignes de rouge. Et puis, patiemment, année après année, ils développent le domaine pour avoir aujourd'hui 7 hectares, 5 hectares en blanc et 2 hectares en rouge. Parce que le coteau du Loir, c'est une appellation qui est située dans la Sarthe, donc on est vraiment plein nord de Tours. Il y a une grosse petite cinquantaine de kilomètres, plein nord de Tours. Et il y a trois appellations en fait qui sont le long de du Loir. Il y a vers Vendôme les coteaux du Vendômois, et puis il y a ensuite le Janière qui fait des blancs absolument remarquables et exceptionnels. Ce domaine en produit d'ailleurs des magnifiques. Et puis cette appellation coteaux du Loir en blanc comme en rouge, avec encore une fois la particularité de ces rouges qui sont le plus souvent des 100% Pinot de Nice. Et ces vins sont toujours d'une délicatesse, avec une note un peu poivrée.
Oui.
Et toujours en bouche, des tanins qui sont très fins. Il y a un domaine très réputé qui s'appelle le domaine de Bellivière, qui est un peu un des pionniers de l'appellation, et en tout cas hein, qui a participé à la renaissance de cette appellation. Et Elisabeth et Benoît Jardin, eh bien, ils produisent cette cuvée Garance, qui est un ravissement de fraîcheur. Il y a de la complexité aromatique, il y a vraiment de la délicatesse de texture, il y a un toucher de bouche qui est d'une grande finesse.
Ah ouais.
Voilà un vin à 17 euros. C'est tout petit comme appellation, ça fait 70 hectares, donc c'est vraiment pas connu du tout, c'est un vin remarquable. Je ne peux que vous conseiller de vous précipiter chez Elisabeth et Benoît Jardin, leur fils Adrien et leur gendre Julien, pour aller goûter leurs vins qui sont remarquables. Bravo.
Bravo, Pinot de Nice, toutes les références sur franceinter.fr, à la page On va déguster. Énormément de questions et de réactions sur les cerises, avec notamment des réactions d'éditeurs sur le prix des fruits. C'est vrai que c'est une vraie question, je ne sais pas si Stéphane Lagorce va pouvoir y répondre.
Beaucoup, beaucoup de commentaires, effectivement, une dizaine de réactions. Tout le monde préfère les bons fruits avec du goût, c'est juste une question de moyens, nous écrit-on à plusieurs reprises.
Oui, c'est-à-dire que c'est ça la vraie question. C'est-à-dire en fait, pour qui et comment. Donc, Peggy nous l'a dit tout à l'heure. Hein, en fait, il faut voir ce que représente la production de fruits en agriculture biologique et les vraies contraintes et les coûts afférents. Donc, du coup, c'est une question de modèle général. Comment on finance quoi et pour quelle raison quoi. Donc, du coup, est-ce que voilà. Donc, là, effectivement, la cerise nous fait toucher ce problème-là, mais le problème est très très vaste. On peut pas trancher comme ça là.
Absolument. La cerise au menu dont on va déguster. Je vous propose justement une parenthèse très cerise, mais aussi une parenthèse littéraire avec Vincent Josse qui nous fait découvrir cette semaine un texte écrit par le duo Erckmann-Chatrian. Vous savez, Émile Erckmann et Alexandre Chatrian qui écrivaient en duo au 19e siècle. C'est un texte de 1864 et c'est un extrait de l'ami Fritz qui raconte comment Fritz Cobus, bon vivant, décide de vivre de ses rentes sans travailler, sans se marier, afin de profiter de la vie et de déguster des cerises.
Dieu sait à quelle heure Fritz s'endormit cette nuit-là, mais il faisait grand jour, lorsque Catel entra dans sa chambre et qu'elle vit les persiennes fermées. « C'est toi, Catel ? » dit-il en se détirant les bras. « Qu'est-ce qui se passe ? » ?»« Le père Christel vient vous voir, monsieur. Il attend depuis une demi-heure. »« Ah, le père Christel est là ? Eh bien, qu'il entre ! Entrez donc, Christel. Catel, pousse les volets. » Et bonjour, bonjour père Christel, tiens c'est vous, fit-il en serrant les deux mains du vieil anabaptiste, debout devant son lit, avec sa barbe grisonnante et son grand feutre noir. Oui, monsieur Cobus, dit-il en souriant, j'arrive de la ferme pour vous apporter un petit panier de cerises, vous savez, de ces cerises croquantes du cerisier derrière le hangar que vous avez planté vous-même il y a 12 ans. Alors Fritz vit sur la table une corbeille de cerises, rangées et serrées avec soin dans de grands feuilles de fraisier qui pendaient tout autour. Elles étaient si fraîches, si appétissantes et si belles qu'il en fut émerveillé. « Ah, c'est bon, oui, j'aime beaucoup ces cerises-là » s'écria-t-il. « Comment vous avez pensé à moi, père Christel ?»« C'est la petite Suzelle, » répondit le fermier. Elle n'avait pas de cesse et pas de repos. Tous les jours, elle allait voir le cerisier et disait « Quand vous irez à une bourgue, mon père, les cerises seront mûres. » Vous savez que Monsieur Cobus les aime. Enfin, hier soir, je lui ai dit « j'irai demain ». Et ce matin, au petit jour, elle a pris l'échelle et elle est allée les cueillir. Fritz, à chaque parole du père Christel, sentait comme un baume rafraîchissant s'étendre dans tout son corps. Il aurait voulu embrasser le brave homme, mais il se contint et s'écria « Catel, apporte donc ces cerises par ici que je les goûte !» Et Catel les ayant apportées, il les admira d'abord. Il lui semblait voir Suzelle étendre ses feuilles vertes au fond de la corbeille, puis déposer les cerises dessus, ce qui lui procurait une satisfaction intérieure et même un attendrissement qu'on ne pourrait croire. Enfin, il les goûta, les savoura lentement et avala les noyaux. « Comme c'est frais, disait-il, comme c'est ferme, ces cerises qui viennent de l'arbre, on n'en trouve pas de pareil sur le marché. C'est encore plein de rosée et ça conserve tout son goût naturel, toute sa force et toute sa vie. »
L'ami Fritz, le roman d'Erckmann Chatrian, merci à Stéphane Sollier, professeur de littérature, qui a sélectionné pendant 14 semaines les textes gourmands de cette émission. Et merci évidemment à Vincent Josse, que l'on retrouve tout à l'heure en direct à 15h, pour un grand atelier hommage au chanteur Christophe. Et le grand atelier de Vincent Josse sera également rediffusé tout l'été, du lundi au vendredi à 22h. On retrouvera de surcroît Vincent Josse cet été pour une chronique Partir quand même, à partir de lundi, dans la tranche L'été comme jamais de Dorothée Barba, de 9h à 11h, du lundi au vendredi. A-t-on Peggy Lizard en ligne? Elle arrive dans quelques secondes, paraît-il. On attend Peggy parce qu'on voudrait absolument sa recette de soupe de cerise. Petite précision botanique en un mot. Situez-nous la cerise dans le règne végétal.
La cerise, c'est fondamentalement un prunus, en fait. C'est un taxon, un cultivar du merisier, hein, qu'on a amélioré. Tout le monde connaît la Burla. Mais Burla, c'est Monsieur Burla qui a greffé un merisier sauvage et qui a inventé cette cerise géniale dont on a ensuite fait différents sous-espèces. Et donc, c'était une invention. C'est pas la variété botanique naturelle, spontanée. C'est une vraie création.
Cocorico, hein.
Ah, complètement.
La Burla est peut-être bien la variété de cerise la plus répandue dans le monde.
Oui, à l'époque, en 1925, je crois, les cultivateurs japonais étaient venus en France récupérer des greffes pour aller les installer au Japon. Enfin, je crois qu'il a pas du tout eu de succès financier avec son invention géniale, mais le pauvre. Mais en tout cas, il nous gâte chaque saison, quoi.
La Burla au pays de Sakura, pays des cerisiers en fleurs, c'est quand même une sacrée aventure pour cette cerise française. Peggy Lizard est avec nous à nouveau.
Oui.
Je suis sûr que vous étiez en cuisine en train de nous préparer une soupe de cerises.
Je commençais.
Mais alors racontez-nous, parce qu'il paraît qu'elle est géniale cette soupe.
Oui, c'est une recette un peu spéciale. On fait cuire des cerises dans un mélange de vin, de sucre, d'épices et de jus d'orange.
Magnifique. Un peu à la manière finalement des poires pochées.
Oui, tout à fait. Alors on dénoyote les cerises, on met les noyaux dans ce mélange, et on les fait cuire. Ensuite, on enlève les noyaux, on remet les cerises dedans et on fait cuire 10-15 minutes. Et ensuite, on le sert glacé en dessert.
Ah là là, génial. Ça, je vais essayer direct. Non, franchement.
Pour le vin, j'ai quelques adresses.
Ouais.
Pour le faire cuire.
Oui, c'est ça. Non, franchement, on va mettre votre recette sur franceinter.fr à la page On va déguster. On a des indiques qui l'ont goûté dans votre entourage. Et il paraît que c'est une recette prodigieuse. Un grand merci, Peggy, et bravo pour votre travail.
Merci à vous.
Vous n'avez pas de marché en ce dimanche matin?
Non, je ne travaille pas le dimanche, j'ai ce luxe.
Tant mieux. Reposez-vous et allez écouter les petits oiseaux parmi vos cerisiers.
Merci.
Merci Peggy Lizard, à très bientôt. Je vous rappelle que vous êtes arboricultrice bio du côté d'Orléans. Ils ont de la chance, ceux qui habitent le Loiret, pour goûter les bons fruits de Peggy Lizard. Ça, c'est ma dyslexie. C'est le temps des cerises. Et la griotte, alors, Elvira Masson.
On va déguster. Sur France Inter.
Griotte.
Oui, c'est la cerise qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la plus acide dans la griotte.
Ah oui, largement.
C'est le fruit du griottier, Prunus cerasus, c'est ça Stéphane?
Wow.
Appelé également cerisier acide ou cerisier aigre, qui a la particularité d'être plus résistant au froid que d'autres de ses homologues. Voilà pourquoi on le trouve dans le nord de la France, en Allemagne, en Europe de l'Est, mais aussi en Iran. Alors, la cuisine iranienne, on la connaît pas très très bien en France. Elle n'est pas forcément ce qu'on imagine. Elle est peu relevée au sens de peu pimentée. Elle est pleine d'herbes, d'épices douces. Et elle a un net penchant pour le registre de l'acidité, de l'acidulité, je ne sais pas si le mot existe, et de l'astringence. On y trouve des baies, notamment l'épine vinette, qui est une baie qui est difficile à trouver chez nous, et des plats à base de griottes, notamment ceci que je vous ai préparé.
C'est bon.
Le albalo polo. Ou polo albalo,
pas
vous rigoler.
Parce que c'est bon.
Polo pour riz pilaf et albalo pour cerise griotte. Alors c'est un plat de riz au safran et aux griottes.
Ah voilà.
Qu'on sert traditionnellement avec des boulettes de viande appelées Gelgeli. Alors j'en propose ici une version très largement simplifiée, végétarienne, enfin une version paresseuse en fait, parce que j'ai pas fait les boulettes. Enfin, pas complètement sans boulettes, parce que j'ai bien dû en commettre une en préparant la recette. Voilà, je suis pas complètement au point. Alors tout commence par la quête de la cerise. J'étais pas très sûre de mon coup, donc j'ai appelé Sépide, formidable épicerie iranienne dans le 15e arrondissement à Paris. On m'a dit chez Sépide qu'on pouvait préparer cette recette avec des griottes déshydratées. Mes mesures sanitaires obligent, ils n'ont pas reçu de griottes déshydratées à temps. Avis aux amateurs, ils en reçoivent demain. J'ai appelé également un restaurant iranien que j'aime beaucoup, qui s'appelle À Table, rue de la Réunion, dans le 20e arrondissement. Là, on m'a dit non, évidemment, il ne faut pas utiliser des griottes déshydratées, mais des griottes fraîches. Mais comme la saison est courte et qu'on en trouve peu, eux utilisent régulièrement des griottes surgelées. Voici donc ce que j'ai fait. Alors, il y a le sujet de la cuisson du riz. Théoriquement, c'est du riz iranien. J'en avais pas, donc j'ai utilisé du basmati qui s'en approche. On le précuit, mais pas trop. C'est peut-être là que je me suis un petit peu foutu dedans, si vous me passez l'expression.
Non, mais franchement, c'est très bon. Avec cette petite croûte dorée, oui, à l'extérieur,
normalement, ça
y a
devrait
de la texture.
Être totalement croûté. J'y viens. Pendant ce temps-là, dans du beurre clarifié, on fait chauffer de la cardamome, de la noix muscade, de la cannelle. On cuit les griottes au sucre. Après pré-cuisson du riz, on les goûte, on le rince à l'eau froide pour bien bloquer la cuisson. On le mélange avec une infusion d'eau au safran, donc d'épices de safran délayé dans un peu d'eau bouillante. Le principe de cette recette est celui de couches successives de riz au fond d'une poêle avec un petit peu de beurre, un petit peu d'épices, un petit peu d'eau safranée. Donc on étale une couche de riz, on met des griottes avec leur jus, on remet une couche de riz, on remet des griottes, on remet une couche de riz et on cuit dans la poêle à feu moyen, recouvert d'un torchon, sous le couvercle. C'est le principe de la cuisson du tadig, qui est le riz iranien dont la croûte est bien dorée au fond du plat. On ne soulève absolument pas le couvercle pendant 20 minutes, à feu moyen. Et normalement, quand on soulève le couvercle et qu'on ôte le torchon, on peut retourner le plat facilement. Ah oui, j'ai oublié de dire qu'il y avait pas mal de matière grasse. Il y a au moins, il y a pas mal d'huile végétale. J'ai pas dû en mettre assez. J'ai pas dû en mettre tout à fait assez parce qu'en le retournant, voilà, il était légèrement croûté sur le côté, ce riz, mais un peu de la croûte est restée au fond du plat. Donc tout ça me fait penser que ce serait pas mal peut-être de consacrer une émission à la cuisine iranienne sous peu. On l'a déjà
mais
fait.
Mais oui, on l'a déjà
mais
fait.
Qu'on a une marge de progression assez grande.
Cuisine de Perse ou Persane, passionnante, un grand merci. On se retrouve en deuxième heure pour toujours parler fruits, musique et puis parler aussi du régime alimentaire étrange de Philippe Catherine. Rallonge la sauce jusqu'à 11h. Nous sommes toujours en compagnie d'Elvira Masson et de Jérôme Gagnès. Nous parlons fruits et cerises avec le cuisinier et ingénieur agronome Stéphane Lagorce, auteur d'un livre formidable sur les fruits, le grand précis des fruits à éplucher aux éditions Homo Habilis. Et puis, en ce 21 juin, France Inter célèbre la fête de la musique. On va déguster aujourd'hui par la bouche, mais aussi par les oreilles. On vous propose quelques surprises culinaro-musicales. On est allé, par exemple, à la rencontre d'un artiste amateur de drôles de choses comestibles. Est-ce que vous voulez un avant-goût ?
Moi, au Japon, j'avais la chance d'y aller à un moment donné, pour des tournées, tout ça, dans les années 90. Et j'avais mangé quelque chose d'extraordinaire. C'était très cruel et tendre à la fois. C'est-à-dire, c'est un poisson qui vous était emmené sur la table et qui vivait encore, donc qui bougeait, quoi. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on plantait sa baguette, le poisson vibrait encore, ce qui était terrifiant, hein, et qui vous assurait, au fond, et depuis des millénaires, c'est comme ça apparemment au Japon, la fraîcheur du poisson. On s'en souvient toute sa vie d'une chose pareille.
Elvira, vous avez reconnu ?
L'ikizukuri ?
Oui, absolument, évoqué par ?
Philippe Catherine ?
Absolument. Ikizukuri, c'est cette tradition japonaise qui consiste à manger des poissons vivants. Bon appétit. On retrouve son entretien avec Mathieu Conquet tout à l'heure. Vos questions et vos réponses fruitées au 01 40... Et vos recettes fruitées, pardon. Au 01 45 24 7000.
France Inter. François-Régis Gaudry. On va déguster.
En parlant de Mathieu Conquet, il vient de nous rejoindre dans le studio 521 de la Maison de la Radio.
Ouais,
vous êtes content, Mathieu ?
Ah, mais très heureux de vous voir autour de la table.
Après 12 ou 13, on va déguster de la platine aux petits plats. Il n'y a qu'un pas que vous franchissez chaque dimanche à Marie, qu'on remercie d'ailleurs, parce que votre femme cuisinière d'ailleurs de métier, a fait des choses superbes pour accompagner ces 14
mérite,
éditions.
Hein.
Moi, je ne fais rien, moi je mets des disques, c'est
Mathieu,
tout.
Il a porté juste son petit grain de sel musical. Et bravo à Marie Conquet, dont les recettes d'ailleurs sur Instagram font très très envie. Je vous invite à rejoindre son compte Instagram, Marie Conquet. Alors, le temps des cerises ?
Bah oui, vous avez remarqué qu'elles poussent souvent par deux, les cerises. C'est pour ça que je vous ai fait deux propositions, puis c'est la dernière. Alors, pour la mise en bouche, si on parle de cerises et de musique en France, évidemment, vous y avez fait référence, on pense à ça tout de suite.
Ah, Stéphane Lagorce là.
Grappelli.
Évidemment.
Ah, en plus, oui.
Avec Michel Legrand.
Ah, ouais.
Voilà, Le Temps des Cerises, hein, de Charles Trenet, Yves Montand, c'est un classique associé à la Commune de Paris, donc cette couleur politique aussi, qui a donné énormément de versions différentes. Alors, la cerise, elle est féconde aussi de l'autre côté de l'Atlantique, hein, si on pense à Don Cherry, hein, le trompettiste très grand innovateur dans le jazz et bien au-delà, qui sera aussi le père adoptif de Néné Cherry, en effet. Et la cerise, c'est riche en possibilités. Alors, avec Marie, on vous propose une recette de plat et puis un cocktail pour ce soir. Pour la... Là, c'est un peu tôt pour le cocktail, là, mais pour ce soir, pour la fête de la musique.
Il est très partant, Jean-Pierre. S'il vous plaît, avec modération, évidemment.
Ah oui. Alors, on va commencer par la recette. Alors, pour deux personnes, vous comptez, vous avez l'assiette là devant vous, une belle poignée de cerises, hein, bien rouge, sucrée, qu'on va poêler dans une noix de beurre pendant quelques minutes, le temps qu'elle s'enrobe de beurre et qu'elle devienne légèrement tiède. On va pas dénoyauter les cerises, hein, surtout pas, vous laissez même la tige, c'est joli dans l'assiette. Sinon, si vous dénoyautez, le jus va être perdu à la cuisson. Le fenouil, Marie va utiliser le bulbe et les fans, hein, zéro déchet. On va d'abord couper les fans de fenouil, les mixer avec l'huile d'olive, ensuite on filtre et ça va nous permettre de faire une huile au fenouil et qui sera très bonne.
Couleur bien verte d'ailleurs.
Exactement. Ensuite, on va couper le bulbe de fenouil en très fines tranches. Si vous avez une mandoline et que vous n'avez pas trop peur pour vos doigts, c'est idéal. Et puis ensuite, ces fines tranches de fenouil, on va les arroser d'un trait de citron. Dans une assiette, on met une belle cuillère généreuse de stracciatella. On ajoute le fenouil, les cerises, le filet d'huile au fenouil, justement. Et puis, quelques feuilles de thym citron. Ça va rehausser l'ensemble. On sale, on poivre. Et puis, on peut servir avec une focaccia ou un petit pain au levain, comme ici. Là,
est-ce qu'on peut définir stracciatella?
Un fromage, comment est-ce qu'on pourrait dire,
de la mozzarella, pas de filet,
ouais, plus coulant,
on pourrait dire que c'est un peu un peu les filaments, le cœur crémeux de la burrata. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire,
c'est-à-dire c'est ça, en fait.
C'est vraiment ce fromage italien en lamelles qui dégouline.
Ouais. Et c'est très bon. Alors pour le cocktail, je vous propose vodka, cerise, coriandre. Dans un shaker avec des glaçons, vous versez 4 centilitres de vodka, 2 centilitres de sirop de cerise, fait maison si vous pouvez, c'est meilleur. Et puis 2 centilitres de jus de citron jaune, une dizaine de fans de coriandre, de feuilles, je dis n'importe quoi moi. Vous mettez une dizaine de feuilles, pas trop parce que sinon ça a quand même un goût très fort. Et puis elles vont se casser avec les glaçons dans le shaker et ça va, avec la cerise, vous allez voir, ça va être très bon. Cocktail cerise, coriandre, qu'on pourrait appeler Cherry FM peut-être, mais si le nom n'était pas déjà pris.
Il y a du niveau ce matin.
Sauf qu'on a... Vous n'avez pas trop la corne, je crois. Vous avez même un...
Non, mais je ferai une exception parce que ça a l'air d'être très bon. Et puis comme ça permettra de prendre des nouvelles de modération qui est toujours confinée. Hein.
Un petit mot sur cette recette.
J'adore.
Fenouil, cerise.
C'est vif, incroyable. Ça a plein de goût. Et j'adore, moi, le mélange cerise, fromage, produits laitiers, comme au Pays Basque, la cerise noire avec le cahier de brebis.
Ça fonctionne très bien,
ce côté un peu acide, astringent, avec l'aspect un peu lactique et là, plus rond, la stracciatella.
Et puis le croquant anisé du fenouil mandoliné. Non, franchement, super recette.
Quelle réussite.
Contraste cuit cru aussi, très bien. Là.
Ah ouais.
Ouais. Vraiment bravo.
Super bon.
Cette recette, on va être... D'ailleurs, elle est en ligne sur franceinter.fr, à la page On va déguster. Un petit accord musical pour accompagner la recette de Marie Conquet.
Quelque chose qui réveille pour la fête de la musique. J'ai pensé aux Runaways. Vous savez, c'était un groupe de rock américain, des adolescentes. Au moment où elles se sont fait connaître, elles avaient 16 ans. Le groupe était alors mené par une chanteuse au nom très culinaire, parce qu'elle s'appelait Cherry Curry. Donc la Cherry Curry. Wow. Et puis, les Runaways, vous savez, c'est le groupe qui a révélé Joan Jett plus tard. Voilà. I love rock and roll.
C'est elle.
Et oui, c'est elle, Joan Jett. Et puis le grand hit des Runaways en 76, j'étais pas né, c'était Cherry Bomb. Il faut dire que la cerise, elle est métaphorique, sexuelle sans doute, en tout cas vous l'entendez comme vous voulez, les Runaways.
D'accord, métaphore fruitière, et ça c'est pour Elvira, puis qui est amatrice de punk.
J'adore.
Très bien.
J'adore les Runaways.
Et écoutez, c'est parti, on se retrouve juste après pour la recette de clafoutis de Stéphane Lagorce, The Runaways, Cherry Bomb. Yeah.
Il est 10h21 à l'horloge de France Inter et ça réveille hein, au moins autant que des cerises vitaminées. Mathieu Conquet, oui, vous vouliez mettre également en avant une bonne idée bordelaise.
Oui, je voulais vous parler d'une cagette bordelaise. Ça tombe bien pour aujourd'hui, fête de la musique et puis on parle de cuisine. Il y a des labels indépendants qui sont situés Place de la Victoire à Bordeaux qui ont eu cette idée, proposer jusqu'à jeudi prochain, jusqu'au 25, une cagette culturelle. C'est un peu sur le modèle des AMAP. C'est-à-dire c'est le circuit court et qualitatif appliqué à la culture. 7 producteurs indépendants aquitains, vignerons, brasseurs, éditeurs de livres, labels de musique proposent une sélection de leurs produits. Alors vous pourrez avoir avec la cagette une bouteille de Château Brotus, un Saint-Cadillac, Côte de Bordeaux rouge, c'est des vignerons qui travaillent en biodynamie, 3 bières de la brasserie Effet Papillon, un roman russe, Refuge 3-9, qui a été traduit en français par une jeune maison d'édition bordelaise, Agulo, et puis 3 CD ou vinyles, vous choisissez votre panier en fonction de 3 labels indépendants bordelais, Talitre, Platinum ou Vicious Circle. Par exemple, vous pourrez avoir un vinyle de Yann Tiersen et Shannon Wright.
Voilà une belle idée.
Belle initiative, tout ça pour 53€ ou 66 en fonction du panier que vous choisissez. Vous avez tout le lien à la page de l'émission.
Une cagette culturelle. Merci beaucoup Mathieu Conquet.
On va déguster. Sur France Inter.
C'est un flan qui est tout clafi de fruits et tout clouté de rouge. C'est pour ça que, aux cerises non dénoyautées, ça s'appelle un clafoutis.
Un flan clafi de fruits, en voilà une belle allitération, et clouté de rouge. Vous connaissiez l'origine du mot clafoutis ? On vous apprend des choses quand même. Hein.
Ah ben, on en vient là pour ça. Hein.
Bon, peut-être que Lisa va changer notre vision du clafoutis, elle est en ligne avec nous et elle habite Lyon.
Oui, bonjour.
Bonjour Lisa. Vous pratiquez le clafoutis ?
Ben, moi je suis équipe sans noyau. Ah. Concernant le clafoutis.
Ah, bah, il y en a une qui va vous rejoindre dans cette équipe sans noyau sur le plateau dont on va déguster.
En fait, c'est l'équipe un peu des paresseux, ceux qui ont la flemme de doter les noyaux après, quoi.
Ou ceux qui ont peur de finir chez le dentiste.
Non, moi, je suis avec vous, hein. Sensorielle, vraiment. Et quand je mords dans un gâteau,
vous y allez à pleine dent.
Je ressens tout ce qui se passe, la première bouchée, est-ce que ça croustille un peu, s'il y a du sucre caramélisé, ou au contraire, est-ce que c'est fondant? Après, comment ça se développe dans la bouche? Est-ce que ça croque? Est-ce qu'il y a un peu de résistance, etc.? Et tout ça, on l'explore en se laissant aller totalement. Et quand on a un noyau, ou deux, ou plus, bref, on est tracté en arrière, parce qu'il faut faire attention. Il ne faut pas mordre dedans, il ne faut pas l'avaler. Il faut le recracher, il faut faire attention, il faut continuer quand même à manger sa bouchée de clafoutis. Et du coup, on n'est plus si gourmand que ça. On repart sur de l'intellectuel et plus sur de la sensation, sur de la gourmandise.
Ça gâche le plaisir de la dégustation, selon vous, le fait qu'il y ait des noyaux, du coup?
Ça nous oblige à être vigilants.
Ah,
alors,
pas...
est-ce qu'on continue à être gourmand quand on est vigilant?
Et en total abandon?
Exactement.
Mais je souscris Lisa à cette analyse et je dirais que il y a dans le plaisir d'un dessert quand on est très gourmand, il y a aussi une certaine forme de gloutonnerie qui participe de ce plaisir.
Parlez pour vous.
Non mais c'est-à-dire que comme le dit Lisa, c'est-à-dire que on a une bonne bouchée et tout se mélange et on croque et on n'a pas à faire attention et donc c'est pour ça que moi je fais partie de l'équipe des sans noyaux.
Ah carrément, on commence à être en minorité là, je comprends plus.
Non, moi je suis pour noyaux.
Ah, pour noyau. Pour noyau. Ça fait déjà 3 sur ce plateau puisque Stéphane Lagorce est pour noyau. Merci beaucoup, Lisa. On va demander son avis à notre ami cuisinier et ingénieur agronome. Alors, avec ou sans noyau, vous avez une raison scientifique qui va quand même un peu calmer tout le monde.
Oui, alors, bon, on va quand même pas engueuler les cerises parce qu'elles ont un noyau, les pauvres. Hein. Donc, on en profite. Et après, il y a de la saveur dans le noyau. Il y a beaucoup de saveur. Il y a beaucoup de saveur. Donc, c'est dommage de s'en priver. Après, c'est vrai que pour la gloutonnerie, c'est mieux sans. On peut pas dire, hein.
Mais il y a de la saveur dans le noyau et notamment dans toutes ces membranes qui entourent un peu le noyau. Voilà. Et ce fameux goût de noyau qu'on aime tant et qui rend la cerise si forte. Bah, et puis par ailleurs, est-ce que, pardon, mais il n'y a pas une raison strictement pratique qui consiste à maintenir le fruit dans son intégrité? Si on enlève le noyau, le jus a tendance à se barrer dans l'appareil.
Vous avez tout dit.
C'est la faiblesse du truc.
Vous avez tout dit.
C'est que le clafoutis est un peu détrempé.
Mais c'est même le truc absolument rédhibitoire.
Voilà, c'est qu'en fait, il y a tellement d'eau dans la cerise qu'évidemment, dès que vous la coupez, vous la découpez, bah, l'eau, elle va dans la pâte. Alors évidemment, la pâte se déconcentre, ça change un peu tout. Ouais. Bon, il y a deux écoles.
Ensuite, il y a une solution de facilité. Il y a des cerises aigres qui se dénoyotent sur l'arbre. C'est-à-dire que quand vous retirez la cerise, en fait, elle se dénoyote toute seule. Le noyau reste sur la tige.
Mais alors, un clafoutis aux cerises aigres, on appelle ça.
C'est excellent. Alors, c'est excellent.
Très bien. Bah écoutez,
en Beauce on le fait, ça marche très bien.
Et ben on va tenter, on est ravis. Et nous avons sous les yeux le clafoutis miniaturisé de Stéphane Lagorce. On allait lui demander s'il était plutôt, à part le avec ou sans noyau, il y a évidemment un autre débat sur le clafoutis. C'est faut-il qu'il ait la texture un peu dense d'un flan? Faut-il au contraire qu'il soit plutôt sur l'aérien et le mousseux?
Alors vraiment, on va pas. On fait un petit peu comme on veut. C'est-à-dire que si on fait des clafoutis très épais avec beaucoup de farine, on aura plutôt quelque chose qui va être de l'ordre du flan, qui va peut-être un peu plus enterrer la saveur des fruits, mais qui aura un côté justement glouton, gourmand, irremplaçable. Et là, j'ai amené une version qui est beaucoup plus cuite en surface, avec une cuisson ultra chaude et du coup qui crée des arômes de cuisson, qui se marie avec les arômes de la cerise. La chaleur distille les arômes de la cerise, qui se mélange avec les lipides du lait. Enfin, ça fait tout un ensemble qui fait un truc assez savoureux, je trouve. Mais bon, on les garde
avec une pâte assez fine dont les cerises émergent.
Ouais, il y a très peu de pâte finalement.
Il y a un rapport fruit qui est quand même. C'est très sur le fruit.
Des clafoutis, enfin des cerises au clafoutis, quoi.
Ouais, mais c'est vraiment délicieux et pour le coup, c'est plutôt moelleux et c'est pas trop dense, même si Elvira, qui aime le sans noyau, elle aime aussi.
Moi, j'aime les parpaings. C'est que j'aime le clafoutis avec un appareil très épais, j'aime les fards bretons, j'aime que le fruit soit complètement enterré dans sa brique de pâte. Ça, mais le vôtre est vraiment délicieux.
C'est évidemment une affaire de teneur en farine.
Voilà, c'est ça. Donc en fait, la recette est très pauvre en farine et très pauvre en œuf. Donc du coup, dès que ça chauffe, en fait, elle n'épaissit pas ou très peu. Et c'est ça qui fait que les arômes que vous avez dans la pâte, ils se baladent, vous pouvez les ressentir. C'est pour ça que c'est si goûtu.
Délicieux, et votre recette est à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster. On a également d'autres questions sur le clafoutis, questions métaphysiques et essentielles. Sur le matériau du plat en verre, en fer, en terre. Enfin, en fer, je devrais dire métal.
Ça, c'est une vraie bonne question de vos auditeurs, là. En fait, il y a ces trois choix-là. On pourrait dire que le métal serait quand même le mieux, mais c'est pas forcément le plus pratique, parce qu'en fait, la chaleur est beaucoup mieux transférée par le métal que par le verre, et donc, du coup, on a une cuisson qui est plus agressive, et donc, qui donne plus de ce qu'on appelle des arômes de cuisson, c'est un peu un gros mot, là, et qui fait qu'on a, des notes caramélisées, des notes de beurre noisette, qui sont tellement agréables avec la cerise. Donc, du coup, plutôt des moules en métal, si on peut. Bon, alors après, on a tous fait des gros clafoutis épais avec le moule en pyrex, en verre, il n'y a pas de souci, mais voilà, c'est deux écoles, il y a deux façons de faire.
Et vous préconisez effectivement la cuisson de la cerise, qui est un fruit qui se prête parfaitement justement à cet après culinaire. Vous donnez raison à Mathieu Conquet et sa femme Marie. La cerise non seulement tient très bien la cuisson, mais a tendance à développer toute sa palette aromatique.
C'est ça qui est très intéressant. C'est comme on a dit tout à l'heure, c'est un fruit qui est assez riche en eau, donc du coup on la met au four à la poêle comme vous faisiez avec le beurre, tout ça là. Et du coup, en fait, ça se transforme par le fait d'enlever de l'eau du fruit qui se concentre. Il se concentre et donc tous ces arômes sont sublimés en quelque sorte. C'est pour ça que le clafoutis est une si bonne recette et que les cerises se poilent comme des pommes de terre, même façon, enfin sans le sel quand même.
Et bien justement, page 212 de votre livre, il y a une recette absolument étonnante, schéma à l'appui, intitulée « N'importe quoi de cerise au four ».
Oui,
développer.
N'importe quoi de cerise au four. Voilà, bon, c'est un petit peu iconoclaste.
Et ça fait drôlement envie.
Voilà, donc l'idée en fait c'est de faire rôtir des cerises comme on fait rôtir un poulet. Ni plus ni moins. Donc du coup, la chaleur enlève de l'eau à la cerise qui se concentre à nouveau, qui caramélise et qui vous donne des saveurs qu'on ne peut absolument pas avoir autrement. En fait, souvent les fruits dans la pâtisserie sont un petit peu, de temps en temps, un petit peu des faire-valoir de recettes. Voilà, là, dans l'idée, c'est vraiment de mettre la cerise en premier et donc juste avec une cuisson ultra simple, très rapide, très très facile.
Eh ben, écoutez, elle est également en ligne sur franceinter.fr à la page On va déguster. Une question d'Aline de Limoges, qui pourrait plaire d'ailleurs à Noël Bréham et ses petits bateaux. Pourquoi les fruits sont colorés? A priori, les couleurs dans la nature sont faites pour alerter
Ouais, pour attirer les prédateurs, les pollinisateurs, tout ça, c'est
les
vrai.
Les pollinisateurs. Ouais. Et ces couleurs-là, effectivement, les couleurs des fruits attireraient leurs prédateurs. Il y a donc quelque chose de pas très logique.
Eh oui, c'est vrai, la nature, elle est ainsi faite. Mais en même temps, elle protège ses fruits avec des pigments qui protègent la pulpe, enfin, qui protègent la graine. Et donc, le végétal, voilà, invente des pigments qui la protègent, effectivement, qui attirent aussi des prédateurs. C'est un petit peu contradictoire, mais il y a aussi des variétés de cerises qui sont jaunes, hein, donc eux, en fait, les mettent à distance. Donc la nature, elle est très inventive, hein, c'est incroyable.
Oui, vous nous
avez les cerises Napoléon.
Oui, exactement, ouais, les Napoléons.
Les cœurs de pigeon aussi.
Voilà, c'est ça.
Absolument.
Et donc ceux-là sont beaucoup moins agressés, forcément, parce que l'insecte ne reconnaît pas. Pour autant, la graine est aussi préservée parce qu'on a un autre type de pigment. C'est tout à fait passionnant.
Vous nous avez apporté votre collection de cerises.
Ben j'ai apporté, en fait, je voulais que Stéphane parce que j'ai des cerisiers, il y a 6 cerisiers dans le jardin, mais il y en a dont on ne sait pas quelle est leur variété, et donc j'ai demandé à Stéphane de d'éclairer un peu ma lanterne.
Donc on n'a pas le droit de les croquer. Cracher le noyau très loin.
Elles ont un peu souffert du transport, mais si là
j'ai goûté la reverchon, elle est très bonne. Hein.
Oui, la reverchon est très bonne. Et là il y a le cerisier qui est.
Citez vos variétés.
Bah,
il y a Burla, j'imagine.
Il y a Burla, il y a Reverchon, il y a Montmorency.
Ah oui.
Et puis il y a Folfer. Ça, Stéphane m'a dit que c'était probablement une Folfer. Et il faut bien reconnaître que c'est pas absolument passionnant la Folfer comme variété de cerise.
Bon, il faut voir à quel niveau du rameau elle a été cueillie. Enfin, peut-être le voyage un petit peu lui a.
Oui, enfin, je peux vous confirmer que pour l'avoir goûtée là, elle est aussi peu intéressante sur l'arbre.
Moi, j'ai goûté une Burla, je pense qu'elle est tout à fait délicieuse. Ouais.
Question d'auditeur, nous sommes le 21 juin, donc premier jour de l'été. Est-ce qu'on peut déjà se prononcer sur la qualité de la saison des fruits qui s'annoncent? Est-ce qu'ils vont être bons tant en qualité qu'en quantité?
Alors,
on constate qu'on croque quand même de bons fruits cette année.
Oui,
jusqu'à
tout
maintenant.
À fait. Il y a eu, notamment en Vallée du Rhône, un printemps difficile avec des épisodes climatiques là qui ont été un petit peu délicats, mais globalement, voilà, les conditions sont très favorables à une magnifique année de fruits. Hein. Enfin, on en a déjà goûté, ne serait-ce que ce matin, qui sont super beaux. Donc, franchement, tout est là, quoi.
C'est
ça. Il y a du soleil, il y a eu de l'eau. Enfin, maintenant, ça va, quoi.
Christiane nous demande pourquoi manger un melon, c'est la loterie. Pourquoi une telle irrégularité quand on croque un melon? Parfois, on a effectivement très peu de sucre. Il y a un goût de courge. Pourquoi c'est si compliqué de faire un bon melon?
Parce que heureusement, c'est d'une certaine manière, c'est rassurant parce que la nature, c'est pas des boulons, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on peut pas usiner à ce point-là. Alors voilà, on sait faire maturer des melons et garantir un certain taux de sucre, mais jusqu'à un certain point, il faut compter sur la chance.
Oui, c'est ça. Non, mais c'est la loterie. Oui, c'est ça.
Faut compter sur la chance. Et quand on a deux bons melons super bons d'affilée ou trois, ben on joue au loto.
On les soupèse.
Ça veut dire que c'est pas une question seule de maturité en fait. Le caractère sucré.
Il y a une question de maturité. Il y a une question variétale qui est très importante. Ouais. Il y a aussi une question de maturité. Évidemment, on va récolter des melons dont on sait qu'ils vont continuer à mûrir pour qu'ils arrivent. Mais on les récolte assez ferme. Donc parfois, il peut y avoir un temps de stockage qui est un petit peu trop court et on n'arrive pas au bout du taux de sucre espéré. Ouais.
Il y a des fruits dont on n'arrive jamais à deviner ni au nez ni à l'odeur, parce que le melon, vous avez l'indice de l'odeur qui aide beaucoup, la forme et tout. Mais par exemple, le litchi, je n'ai jamais trouvé un seul indice qui vous dise si vous aurez un petit ou un gros noyau dedans, si ce sera bon ou pas terrible. Donc, on peut jamais savoir avec le litchi.
Il y a un petit indice, c'est que le litchi sur sa branche, en général, a des chances d'être meilleur.
Ah oui, clairement.
Quand il vient de La Réunion et de Madagascar. On a aussi des questions sur les fruits qui viennent de loin. Et il est vrai qu'il faut se calmer aussi sur leur consommation en raison de leur bilan carbone.
Bon, alors voilà, en même temps, donc c'est sûr que, mais en même temps, on peut pas non plus être complètement rétréci. Enfin, il faut aussi savoir s'ouvrir aux productions qui sont loin. Il y a des gens qui en vivent. Enfin, tout ça est une affaire fort compliquée. Et c'est dommage de se priver des litchis dont vous parliez. C'est un fruit absolument,
sinon, complètement génial. On profite pour embouloter quand on voyage du côté de La Réunion. Ouais. Il est l'heure de retrouver un chanteur, compositeur qui veut partir loin, très très loin quand il parle cuisine. C'est Philippe Catherine qu'on retrouvera d'ailleurs, Mathieu, sur France Inter pour un concert à 21h.
Mais oui, tout à l'heure, il sera en direct à l'Olympia pour France Inter. Alors Philippe Catherine que je suis allé voir au fourneau en répétition cette semaine dans un studio pour lui parler de cuisine parce que la dernière fois qu'on s'était rencontrés, d'emblée, il m'avait parlé d'un plat qui lui avait fait très forte impression. Philippe Catherine.
C'était un riz de veau, c'était une battle entre deux chefs cuisiniers, dont Iñaki, qui travaille au Chateaubriand.
Iñaki et Spitart.
Spitart, bien sûr, le Basque, qui est un ami, hein, il faut le dire, et puis quelqu'un que j'admire. Enfin, il nous fait redécouvrir la vie hein, par sa façon de faire, et d'aborder les choses et de les présenter. Et alors, le riz de veau qu'il a fait a provoqué chez moi un drôle de phénomène, c'est-à-dire un dédoublement de personnalité. J'ai mangé mon riz de veau et je me suis vu sur le plafond, moi-même, en me regardant manger le riz de veau, chose qui arrive parfois à ma mère, par exemple, mais à d'autres gens aussi, et qui m'est arrivé, c'est la seule fois que ça m'est arrivé dans ma life, avec ce riz de veau. Et j'avoue que c'est une sensation, évidemment, que je recherche depuis, mais en vain. J'aime être stone avec toi, j'aime être stone.
Imagine la jungle de saucisses, tous les arbres sont en saucisses, les singes, les toutans, les papillons sont en saucisses, des hamsters de 130 kilos, des animaux moitié saucisses, moitié plastique, qui veulent te manger.
Pour moi, la cuisine, c'est toujours aussi la réunion de plein de choses, hein, c'est-à-dire le lieu, les gens avec qui on mange, le vin qui accompagne le plat, la température. C'est une combinaison de beaucoup de facteurs qui font que ça marche ou ça marche pas. Enfin, c'est à peu près comme dans tout, hein, en musique aussi. Et alors, tout était réuni là, et c'est vrai que je me suis élevé dans les airs, et je me suis vu manger mon riz de veau, vraiment un dédoublement de personnalité.
Pendant le confinement, beaucoup de gens se sont retrouvés chez eux à faire la cuisine, à cuisiner, à passer du temps à se faire à manger. Est-ce que ça a été votre cas? Qu'est-ce que vous avez cuisiné, Philippe Catherine?
Bon, je n'ai pas cuisiné énormément. J'étais accompagné de gens qui, par contre, prennent ça à cœur et qui voulaient pas forcément que je marche sur leur plate-bande. Ce qui, quelque part, bon, m'arrangeait. Hein. On m'a cuisiné beaucoup de choses. Et j'étais d'ailleurs aux anges que ça puisse m'arriver. Et il y a eu des choses formidables. Beaucoup de repas fastueux en milieu d'après-midi, vers 3-4 heures. Mais tu remanges pas le soir. C'est ce qui m'arrivait aussi pendant les tournées qu'on faisait. Souvent, je mangeais vers 18h. Tu fais ton concert vers 21h. Bon, une digestion bien entamée quand même. Et puis, t'as pas envie forcément de revenir à table le soir après. C'est une nouvelle technique que j'emploie actuellement, qui me sied.
Qu'est-ce qu'il y aura au menu ce soir à l'Olympia, Philippe Catherine?
Ça, je l'ignore. Bon, moi, j'aime bien, moi, les plats d'hiver en été. Hein, alors, bœuf carotte, un pot-au-feu, c'est vrai que ça m'enchanterait. C'est ce que j'aime bien. J'aime bien manger léger en hiver, plutôt des légumes crus. Je suis très crudivore. Et puis, j'aime bien me charger en été, c'est curieux. Os à moelle me plaît beaucoup en juillet.
Aujourd'hui, dans l'émission, on parle beaucoup de fruits, notamment de cerises. Je me demandais si vous aviez des fruits de prédilection, Philippe Catherine. Je vous demande pas si vous avez un lien particulier avec la banane, notamment.
Vous voyez juste. La banane, qui est le fruit de roi, le roi des fruits, hein, c'est entendu. Et ce que je consomme une fois par jour. Oui, je suis très, très banane. J'ai pas menti dans ma chanson.
Non, je ne veux plus jamais travailler, plutôt crever. Non, je n'irai plus jamais au supermarché, plutôt crever. Non, mais laissez-moi, non, mais laissez-moi manger ma banane. Non, mais laissez-moi, non, mais sur la plage.
Alors, c'est vrai que dans les fruits, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que, notamment dans l'ananas, c'est que c'est rugueux à l'extérieur et très doux et juteux à l'intérieur. Donc, c'est, je trouve, une combinaison formidable que certains êtres humains, d'ailleurs, adoptent à leur corps défendant. Et ces êtres humains-là sont souvent les plus touchants, à l'image de l'ananas.
Vous seriez plutôt banane ou ananas, vous?
Je suis quand même plutôt banane. Hein. La banane, vous pouvez la consommer à peu près partout. C'est très fort là-dessus.
Il y a des saveurs ou des recettes qui ont pu être des déclencheurs pour la musique, Philippe Catherine?
C'est-à-dire qu'on n'écrit pas la même chanson si on a mangé un bœuf carotte ou une endive braisée. Ce ne serait jamais la même chanson, évidemment. Donc, dans certaines chansons, je peux reconnaître, ah ben là, j'ai mangé telle chose ou telle chose, selon les chansons. J'ai des souvenirs forts de nourriture. Puis j'en ai parlé aussi beaucoup. J'ai une chanson qui s'appelle Poulet numéro 728120, autour d'un poulet que j'ai aimé, qui aujourd'hui est passé dans les selles, et les selles ne sont plus là. Ouais. Le 8 décembre 1998, je l'ai acheté 52 francs 55 chez le boucher chauve, rue de la Bastille à Nantes. Je l'ai mangé chaud le midi, froid le soir, avec une bouteille de vin rouge. Je l'ai adoré, le poulet. Je l'ai adoré, le poulet. Poulet numéro 728120, je t'aime. Je pense à toi. Bah, c'est-à-dire que la musique, c'est aussi une digestion. Hein. On ingère, on digère, et puis on cristallise. Donc c'est tout à fait le principe même de ce qu'on fait tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui cherchent toute leur vie leur alimentation, et qui ne trouvent jamais, et qui, pour cela, passent des journées difficiles, interminables même. Moi, j'ai trouvé solution aussi, parce qu'à un moment donné, je saturais aussi, parce que je mange quand même beaucoup. Et j'ai trouvé solution dans les légumes crus, hein, accompagnés de poivre et d'huile d'olive, simplement, des navets crus, avec un crottin de chavignol, par exemple, c'est tout à fait à mon goût.
Vous nous offrez la recette.
Qui est à portée de tous.
Le repas, l'alimentation, c'est toujours un moment social. On le passe en famille ou avec des amis. Il se trouve que dans votre famille, votre beau-père, c'est Gérard Depardieu. Et je n'ose imaginer les repas de famille. Qui cuisine et comment ça se passe dans ce cas-là?
Mon beau-père, c'est quand même, tout le monde le sait, un fin gourmet qui est très exigeant aussi sur ce qu'il mange. Même si les quantités sont parfois non négligeables. Donc il est quand même très exigeant, notamment en cuisine, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a le don de ça, et il aurait pu en faire son métier, je pense, aisément. Je l'ai vu en chambre froide, au milieu du peuple des viandes, et il est le plus heureux des hommes, c'est très très net. Quand il cuisine, bon, je tente d'être son commis, mais souvent, il me rabroue, et à juste titre. Et c'est quand même admirable à voir évoluer, parce que les plats sont cuisinés très vite chez lui, avec lui, très très vite. Et puis, aussitôt que c'est mangé, la vaisselle doit être faite. Ouais, ça, c'est à la main. Ouais, tout doit être nettoyé très vite. Comme si le souvenir devait s'effacer au plus vite. C'est assez curieux, ça. Ouais. Donc c'est un spectacle, hein, tout simplement. Et c'est vrai que dans ce spectacle, je me place souvent en spectateur. Et heureusement pour moi, acteur, quand je mange ce qu'il fait. C'est un délice la plupart du temps.
Est-ce que vous avez une madeleine, Philippe Catherine?
Le museau, peut-être. Ah. Museau vinaigrette. Me ramène toujours à mon grand-père, que j'aimais beaucoup, et qui m'avait fait découvrir dont j'avais posé la question, c'est vraiment un museau? Oui, oui, c'est un museau de veau, quoi, ou de bœuf. Tu as mangé comme ça en vinaigrette. Et c'est vrai que de replonger, lui manger ça avec du poireau, hein, ce qui est pas idiot d'ailleurs. Et de replonger dans le museau, qui est pas loin du cerveau, hein, d'ailleurs, me ramène à ces années-là, et le sourire de mon papy qui était bouleversant.
Il pleut, le ciel est bleu, il y a du vent, mais rien n'y paraît, c'est un moment parfait, je l'oublierai jamais. Je t'aime, c'est fou quand même, la plage est typique, mon romantique, je l'oublierai jamais, c'est un moment parfait. Tam 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 tam. Chante mon Parnasse, poule un capolinaire, bien sûr qu'il peut le faire. Tout nu, dans l'eau, sur le dos, je vois un nuage, c'est un mirage, c'est un moment parfait, ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais.
Moment parfait, l'une des chansons les plus émouvantes de Philippe Catherine. Ouais, et on va probablement passer à un moment parfait avec Philippe Catherine ce soir.
À 21h en direct à l'Olympia pour France Inter. Il y a plein de concerts toute la journée. Ça commence tout à l'heure à 11h avec Pomme. Mm-hmm. À 18h, Louise Attaque, hein, le groupe de Gaëtan Roussel, vous savez, grand amateur de cuisine, qui revisitera sur scène la recette de leur premier album de 97.
C'est ça.
Et puis en clôture, DJ set d'Étienne de Crécy, rien que ça.
Ben oui, quand même, belle programmation sur France Inter tout au long de la journée. Elvira Masson accorde aussi ses violons à la fête de la musique, la soul. C'est de la musique, mais c'est aussi de la food.
Avant-hier, le 19 juin, aux États-Unis, c'était Juneteenth, autrement appelé Freedom Day ou encore Emancipation Day. On célèbre ce jour-là, le 19 juin 1865, date de l'émancipation des esclaves dans tout le Sud confédéré. À cette occasion, habituellement, les familles se réunissent, cuisinent, mangent. C'est un moment de partage et de célébration par la cuisine de ce qu'être afro-américain veut dire, notamment à table. Alors, la soul food dont vous parliez est le nom dérivé de soul music qui lui est antérieur dans l'appellation. C'est le nom dédié aux traditions culinaires afro-américaines dans le sud des États-Unis. Alors on pense bien sûr à la cuisine Cajun de Louisiane, mais pas seulement, c'est la cuisine du Mississippi, c'est la cuisine du Texas, c'est la cuisine de Géorgie aussi. On dit d'ailleurs aujourd'hui qu'Atlanta est la capitale de la soul food aux États-Unis. Elle est méconnue cette cuisine chez nous bien sûr, mais aussi aux États-Unis où elle a pas toujours bonne presse, trop grasse, trop frite, trop cuite, trop sucrée, trop épicée. Pour mieux en comprendre les contours, je me suis plongée dans la lecture d'un livre passionnant qui s'appelle Soul Food. C'est pas un livre de cuisine, bien qu'il contienne des recettes. C'est un essai qui est signé de Adrian E. Miller. Il n'existe qu'en anglais, malheureusement. Et Adrian Miller est un ancien avocat reconverti dans l'histoire des cuisines afro-américaines. Il a enquêté pendant des années. Il s'est fait inviter de maison en maison partout dans le Sud, pistant la trace de la soul food et de la southern food. Pas tout à fait la même chose. Dans son livre, il écrit notamment ceci en préambule. L'histoire de la participation des Noirs à l'élaboration de ce qu'est la cuisine américaine devait être écrite. Des cabanes des pionniers, aux demeures des plantations jusqu'à la Maison Blanche, des bateaux à vapeur, aux voitures-restaurants des trains transcontinentaux, des barbecues publics, des baraques à friture de poisson, sans compter toutes les maisons particulières où ils ont officié au fil des temps, les chefs cuisiniers et domestiques noirs ont élevé l'art de la cuisine américaine. C'est cette histoire-là que Adrian Miller raconte dans son livre absolument génial. Alors dans la soul food, il y a en particulier la cuisine créole de Louisiane. Et il y a un plat dont je garde un souvenir absolument intact.
Je vous vois venir.
Alors je l'ai mangé qu'une fois, mais je pense qu'il y a plus de 20 ans, à la Nouvelle-Orléans, c'est le po'boy. Po'boy est dérivé de po'boy, donc c'était un plat typique de la classe ouvrière de la Nouvelle-Orléans. C'est un sandwich composé d'un pain blanc de forme baguette qui contient soit de la viande rôtie, souvent du porc, mais surtout des fruits de mer rôtis, en particulier des fried shrimp, des crevettes.
Frites,
ouais. Un mélange d'épices, de mayonnaise, des oignons frits, des cornichons, quelques feuilles de laitue. J'en ai encore le goût en bouche quand j'y pense et j'ai juste demandé à Mathieu Conquet d'en raviver un petit peu l'assaisonnement pour qu'il soit plus vivace.
Et oui, de la soul food à la soul musicale, Mathieu, il y aura un petit accord à prévoir avec le po'boy d'Elvira.
Non, mais l'évidence, c'est Green Onions, Booker T et les MGs en 62. Là, on est au cœur du rhythm and blues et de la soul du Sud. Hein. Booker T, c'est le groupe phare du label Stax à Memphis. Avec les MGs, ils ont fait la plupart des tubes d'Otis Redding, de Sam & Dave, Carla Thomas. C'est des musiciens, des des artisans fabuleux. Et puis socialement, c'était un groupe qui était à l'image du sud des États-Unis puisqu'il y avait deux musiciens blancs, Steve Cropper et Donald Duck qui étaient à la guitare et à la basse, et puis deux noirs, Booker T au clavier et Al Jackson le batteur. L'oignon, ça revient tout le temps dans la cuisine du sud, mais ce morceau-là, il est revenu partout sur les pistes de danse.
J'apprécie beaucoup les paroles autour de l'oignon. Ça vous dit quelque chose ou pas, ce morceau, Jean Gagnès?
Ah oui, bien sûr.
Green Onions.
Je connaissais pas le nom, mais je connaissais ce morceau. Bien
voilà.
Sûr.
C'est efficace, aussi efficace qu'un po'boy.
Pour percer l'âme de la soul food ou de la soul musicale, merci pour nous faire partager ce titre très connu. Mathieu Conquet, rien de mieux que les comédies musicales pour réunir au cinéma la musique et la cuisine. Et on retrouve à distance, malheureusement, on est limité dans ce studio 521, c'est Laurent Delmas.
Bonjour François-Régis.
Ça va, cher ami?
Bonjour à vos trois fruits confits, comme dirait Brigitte Fontaine, et bonjour à toutes et à tous.
Salut Laurent.
Salut Laurent.
Salut.
Bonjour.
Bonjour.
Alors Laurent.
Votre feuille de route était on ne peut plus musicale ce matin, François-Régis, puisque vous m'avez dit, je vous cite, venez sur mon piano, je vous montrerai ma batterie de cuisine, je vous jouerai de ma mandoline en parcourant la gamme des saveurs pour trouver la note juste entre salé et sucré. Le tout, avez-vous ajouté, en parlant cinéma. Et c'est là, évidemment, que c'est devenu corsé. À notre demande générale, je vous ai évité la recette du cake d'amour dans Peau d'âne.
Oh, dommage.
Dont chacun sait.
Oh non, pas dommage.
Mais oui, mais dont
il
chacun
faut pas
sait
la faire la recette.
Si craquante à écouter.
Infaisable.
Que désastreuse à réaliser, hein, si oui. On la suit au pied de la chanson. Mais alors j'aime trop le film quand même de Jacques Demy pour ne pas me souvenir de cet autre extrait musical gourmand et vous le proposez maintenant.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
Nous fumerons la pipe en cachette.
Nous nous gaverons de pâtisserie.
Tous ces plaisirs,
il y en a
tant sur terre.
Vous tapez juste Laurent Delmas, on a une fan. Il y a une fan à ma gauche de Peau d'âne, c'est Elvira Masson. Et une fan derrière la vitre de la régie qui connaît oui. Peau d'âne sur le bout de sa spatule, c'est notre réalisatrice Laurent Thomas qui réalise l'émission en direct.
Mais nous sommes trois. Alors, je passe sur l'exégèse de fumer la pipe en cachette à cette heure de grande écoute. J'effleure la bienfaisante réouverture désormais des buvettes et j'insiste sur le réjouissant « Nous nous gaverons de pâtisserie » en rappelant que cette chanson s'appelle « Les rêves secrets d'un prince et d'une princesse ». Et décidément, après le cake d'amour pour Demi, les gâteaux ont à voir avec des gâteries. Mais à son cake d'amour, il nous faut opposer, ne riez pas, hélas, le pudding à l'arsenic, dont un méchant grand prêtre égyptien concocte en chanson la recette dans le réjouissant dessin animé Astérix et Cléopâtre, et qui se termine par ces mots vipérins. Le pudding à l'arsenic nous permet le pronostic. Demain, sur les bords du Nil, que mangeront les crocodiles?
Des Gaulois.
Restons dans l'animation, mais cette fois au pays des bisounours, ou presque, Campbell et son clochard, dans une scène désormais culte du film qui porte leur nom, s'attablent dans un restaurant italien pour déguster les spaghettis du chef. Ce dernier reprend la chanson de Peggy Lee, Bella Notte, pour accompagner leur dégustation amoureuse. Alors oui, décidément, François-Régis, on mange souvent en musique au cinéma. Mais on y mange parfois un peu n'importe quoi, voire pire. Souvenez-vous, François-Régis, du très sulfureux film du britannique Peter Greenaway, Le cuisinier, le voleur, sa femme et son amant, dans lequel un mari trompé finit par manger le corps de l'amant de sa femme, brillamment cuisiné par Richard Boringer, le tout sur une partition omniprésente signée du grand Michael Nyman. Et quelques années plus tard, Tim Burton adapte au cinéma Sweeney Todd, une fameuse comédie musicale sur une partition de Stephen Sondheim, qui célèbre les noces cannibales d'un serial killer et d'une boulangère, laquelle crée de délicieux petits pâtés à la chair délicatement humaine.
Bon appétit.
J'arrête de vous chambouler l'estomac, François-Régis, et je vous mets en tête, et pour la journée, la chanson d'un autre film culinaire de Tim Burton, Charlie et la chocolaterie, évidemment.
Chocolaterie de Tim Burton.
Les Oompa Loompa sont dans le studio.
Ouais, c'est ça. Avec Johnny Depp dans le rôle de Willy Wonka.
Exactement.
Merci beaucoup, Laurent Delmas. Merci d'avoir assuré aussi 14. On va déguster XXL avec tout votre talent. Et on vous retrouve cet été, cher Laurent, dans L'été comme jamais, c'est bien ça?
Absolument, avec drivé par Dorothée Barba, de 9h à 11h tous les jours, et à 11h moins 5, à la fin de l'émission, ben, je vous parlerai chaque jour d'un film différent, un grand film qu'on peut voir et revoir sur un site de VOD. Voilà.
C'est la chronique « Il était une fois, été, ah bravo ». Festival de jeunes mots.
Oui, alors oui, non, mais en fait non, c'est pas ce titre-là, c'est pas grave.
Je suis pas du tout dans l'actu, j'ai un train de retard, c'est ça. En tout cas, c'est dans l'émission.
Non, mais pas du tout. C'était un titre qui traînait dans les couloirs, mais vous l'avez récupéré à la volée, c'est très bien. Il me va aussi.
Rassurez-moi, voilà, la tranche estivale de Dorothée Barba s'appelle bien L'été comme jamais.
Mais vous avez entièrement raison.
Et c'est du lundi au vendredi de 9h à 11h. Un grand merci, cher Laurent, et à bientôt dans notre
merci
émission.
À vous.
Et merci puis Mathieu Conquet, on aura aussi le plaisir de vous retrouver cet été sur les ondes de France Inter.
Et oui, vous savez que les soirées du week-end sur France Inter, elles seront XXL aussi pour la grille d'été, puisque j'aurai l'honneur du vendredi au dimanche soir d'être au fourneau de 21h à 23h pour le Festival Imaginaire de France Inter. Le vendredi, c'est des concerts qu'on va produire depuis le studio 104, en direct ou bien depuis le Bataclan. Vendredi prochain, ce sera Benjamin Biolay, ici à la Maison de la Radio. Le samedi, à 22h, je ferai une série sur les labels indépendants français. Vous savez, ils sont un peu comme les vignerons indépendants, ils ont beaucoup de personnalité, ils font beaucoup pour notre identité et notre rayonnement. Voilà, une heure dans le catalogue des labels indépendants avec des mix, des interviews, des inédits pour France Inter. Le premier label samedi prochain, ce sera Headbanger. Et puis dimanche, ce sera Jazz et Musique du Monde. On diffuse des grands concerts captés dans les festivals Jazz à Vienne et Jazz in Marciac. Et vraiment, le programme est à tomber. On commencera dimanche prochain par Manu Dibango et son Safari symphonique à 85 ans. Je peux vous dire que c'est extraordinaire.
Génial. Mathieu Conquet sur le pont cet été. Bravo, il y a décidément beaucoup de passerelles entre la gastronomie et la musique. On l'a constaté au long de ces émissions. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier les copains de France Inter d'avoir mis leur grain de sel dans l'émission. C'était mes voisins de bureau, 6e étage de la Maison de la Radio, et ce sont devenus de fidèles chroniqueurs de ce On va déguster XXL, nés le premier dimanche du confinement, le 22 mars, et ils nous ont apporté leur regard sur la cuisine et la gastronomie. Vincent Josse, Laurent Delmas, Mathieu Conquet, qu'ils soient chaleureusement remerciés. Stéphane Lagorce.
Merci
et
à vous.
Je rappelle le titre de votre livre formidable qui va intéresser énormément d'amateurs de fruits, à la fois érudits, ludiques, bourrés de connaissances et de recettes. Le grand précis des fruits à éplucher, leurs recettes sans pépins aux éditions Homo Habilis dans toutes les bonnes librairies et même en ligne.
Merci beaucoup.
Et on peut citer aussi de Stéphane le grand précis des vins au naturel. C'est un précis très précieux pour bien comprendre et pour mieux connaître ce que sont les vins au naturel, pas les vins naturels, les vins au naturel. J'insiste là-dessus, c'est admirable.
L'un des livres indispensables sur le sujet. Stéphane Lagorce, vous revenez quand vous voulez à ce micro. On va déguster, reprendre ses bonnes habitudes d'été. Vous aurez droit à des rediffusions dont on va déguster le samedi à 11h pendant tout l'été. Et des émissions nouvelles, toutes fraîches, le dimanche à 11h, au menu dont on va déguster samedi prochain à 11h, le vinaigre balsamique. Et au menu de notre émission fraîche dimanche à 11h aussi, s'alimenter et cuisiner en randonnée. C'est pour Jérôme Gagnez. Pomme en concert dans un instant sur France Inter, à dimanche prochain à 11h. Si vous avez encore faim.